Il y a le titre de l'exposé que je voudrais vous faire cet après-midi, qui a été annoncé sur les invitations, c'est Jésus, mythe ou histoire. Nous sommes en 1977, et je pense que vous savez tous ce que signifie ce chiffre, c'est 1977 années après Jésus-Christ. Pour notre monde qui a un certain héritage chrétien, l'événement Jésus-Christ est un événement déterminant puisqu'il est celui qui a changé la manière de compter les années. Et si on compte les années, donc, à partir, croit-on, de la naissance de Jésus-Christ, encore qu'il y ait quelques doutes quant à la date exacte de sa naissance. Il est certain donc que pour les chrétiens, Jésus est un événement historique de la plus grande importance. Mais depuis quelque temps, et en particulier depuis le siècle dernier, des questions ont été posées au sujet de l'existence même de Jésus, de ce qu'on peut appeler son historicité. Et parmi les voix qui expriment ces questions, je vous citerai simplement celle de Jacques Brel, un chanteur que la plupart connaissent, j'imagine, et qui dit, dans un de ses disques, c'est pas vraiment une chanson, il le parle, « Dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem, si c'était vrai le coup des noces de Cana et Lazare, alors je croirais sûrement, car c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. » Et un certain nombre de gens aujourd'hui se demandent effectivement si c'est bien vrai, si on peut le croire. Autrement dit, si on peut ajouter foi au récit du Nouveau Testament qui nous parle de Jésus. Certains, je vous l'ai dit, ont mis en doute l'existence historique de Jésus. Les uns allant jusqu'à affirmer que Jésus n'a jamais existé et qu'il n'est qu'un mythe, c'est-à-dire une légende. Et d'autres ne vont pas jusque-là, mais disent, oui, Jésus a sans doute existé, mais on ne peut rien savoir de certain à son sujet. On ne peut pas faire confiance à ce que ses apôtres ont écrit à son sujet, parce que, au fond, c'est des gens qui cherchaient à prouver quelque chose et qui ne parlaient pas d'une manière objective et scientifique. Voilà en quelque sorte l'accusation. Et je suis ici, je ne le cache pas d'ailleurs, pour présenter une défense. Mais je crois que c'est une défense qui n'est pas tellement difficile à établir. Je ferai d'abord remarquer que la thèse suivant laquelle Jésus est un mythe, c'est-à-dire un récit mythologique qui ensuite a été transformé en histoire par les adeptes de la religion chrétienne, cette thèse a été défendue historiquement par quelques écrivains, mais très peu d'entre eux étaient des historiens spécialistes de cette époque. Et il est frappant de constater que la très grosse majorité des historiens, chrétiens ou non, ne mettent pas en doute l'existence historique de Jésus. Et je me permettrai de citer comme exemple aujourd'hui un certain nombre d'historiens juifs contemporains qui n'ont aucune raison de vouloir prouver l'existence de Jésus, bien au contraire, elle serait plutôt gênante pour eux. Une des dernières vies de Jésus qui est parue en français est celle de l'historien juif David Flusser, c'est intitulé tout simplement « Jésus ». Flusser ne croit pas en Jésus comme étant le Messie, le Christ, mais Flusser raconte ce qui lui semble être la vie authentique de Jésus, telle qu'un historien juif d'aujourd'hui peut la voir, en mettant donc en doute certaines affirmations de Jésus, mais en ne mettant absolument pas en doute le déroulement de cette vie dans le contexte historique de l'époque, tel que le Nouveau Testament la présente. Les deux arguments qui ont été mis en avant pour mettre en doute l'existence de Jésus me paraissent être les suivants. Tout d'abord, les historiens non chrétiens de l'époque n'en parlent pratiquement pas. Alors comment se fait-il que les historiens non chrétiens n'en parlent pas ? s'il a existé, s'il a une telle importance. Ça, c'est le premier argument. Et le second, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire confiance au Nouveau Testament parce qu'il a été écrit longtemps après les événements et par des gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient des avocats, cherchaient à prouver quelque chose. Alors, je prendrai ces deux arguments dans l'ordre. Le premier, c'est le silence des historiens profanes, comme on dit, des historiens non chrétiens. Il n'est pas tout à fait exact de parler de silence total. Mais il est vrai que dans les auteurs à peu près contemporains ou postérieurs d'un siècle environ, il n'y a pas beaucoup de mention de la personne de Jésus. Mais à bien y réfléchir, cela n'a rien d'étonnant. Et je vous dirai dans un instant pourquoi. En ce qui concerne d'abord les textes juifs, c'est-à-dire les textes d'auteurs juifs non chrétiens, il faut d'abord faire remarquer ceci, c'est que très peu de textes juifs du 1er siècle sont venus jusqu'à nous. Les 9 dixièmes, pour ne pas dire les 99 centièmes d'entre eux, sont perdus. Il faut savoir ceci, c'est qu'à cette époque-là, l'imprimerie n'existait pas. On copiait les textes à la main. Alors on les copiait soit sur du papyrus, qui est une sorte de papier primitif très fragile, soit sur du parchemin, le parchemin qui était une denrée extrêmement coûteuse. C'est dire que les livres étaient fort peu nombreux et que ceux qui étaient un peu plus nombreux que les autres, qui étaient écrits sur papyrus, se sont presque tous perdus au cours des années. D'autant que la plupart des livres juifs ont été détruits lors de la guerre juive en 70 après Jésus-Christ, lorsque les juifs se sont révoltés contre les Romains, que Jérusalem a été détruite. Toutes les bibliothèques juives ont été détruites, à l'exception, autant qu'on sache, de celles qu'on a retrouvées depuis une trentaine d'années maintenant dans les grottes près de la mer Morte à Qumran. Il n'est donc pas étonnant que nous n'ayons pas beaucoup de témoignages juifs de la vie de Jésus, tout simplement parce que les 9 dixièmes au moins des écrits juifs de cette époque-là ont disparu. Tout simplement, ils n'ont pas été retrouvés. Il y a pourtant deux sortes de textes juifs qui sont un peu plus tardifs, qui parlent de Jésus. Il y a d'abord ce qu'on appelle la Mishnah et le Talmud. Alors, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est. Lorsque la chute de Jérusalem a détruit à peu près toutes les bibliothèques juives de l'époque et a mis fin au culte du temple de Jérusalem, les croyants juifs ont essayé de regrouper, de reconstituer leurs écritures saintes, l'Ancien Testament. Mais ils y ont ajouté en cours de route un certain nombre de commentaires et en particulier toutes les lois qui constituaient la tradition juive dont parle d'ailleurs l'Évangile. Ceux qui ont fait ça, c'était des rabbins de la tendance des pharisiens, qui n'étaient donc pas des amis de Jésus. Ça a pris du temps, et alors le recueil des lois juives, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Plus tard, on y a ajouté des commentaires appelés le Talmud. Alors ça a pris un certain temps, si bien qu'on sait que le Talmud a été terminé environ en 300 après Jésus-Christ, mais qu'il est fait d'un recueil de textes dont certains sont beaucoup plus anciens, sans qu'on sache quelle est leur date. Or, il y a des passages du Talmud qui parlent de Jésus et qui en parlent non pas comme d'un mythe, mais comme d'un personnage qui a bel et bien existé et à qui on ne veut pas de bien. Il n'est pas étonnant que des juifs qui n'ont pas cru en Jésus de la tendance pharisienne, lorsqu'ils parlent de lui, n'en parlent pas en bien. Il est donc appelé hérétique, il est appelé dans le Talmud transgresseur de la loi. Mais il n'y a aucun passage du Talmud qui mette en doute l'existence de Jésus. Or, il serait bien étonnant quand même que des juifs adversaires de Jésus dans les deux, trois premiers siècles du christianisme se soient dispensés d'utiliser l'argument que Jésus n'a pas existé. S'ils le connaissaient, c'est que cet argument n'existait tout simplement pas dans le judaïsme de l'époque. On tenait pour acquis l'existence de Jésus. Il y a ensuite un historien juif dont les textes sont venus jusqu'à nous, qui s'appelle Flavius Joseph et qui vivait au 1er siècle. Les textes de Flavius Joseph sont venus jusqu'à nous pour la raison suivante, c'est que Joseph était devenu un peu un protégé de l'empereur romain. C'était, si vous voulez, un juif latinisé, un juif qui vivait à Rome d'ailleurs. Par conséquent, il n'y avait pas les mêmes raisons de détruire ces textes que ceux des autres auteurs juifs. Joseph a écrit deux ouvrages, dont l'un d'entre eux est intitulé « Les Antiquités juives », et c'est un peu l'histoire d'Israël jusqu'à la chute de Jérusalem. Son deuxième livre s'appelle « La guerre juive » et décrit justement les événements qui ont conduit à la chute de Jérusalem. Dans les Antiquités juives, Flavius Joseph parle de Jésus à deux reprises. Une fois, une référence très brève en passant, il parle de la mort de Jacques, le frère du Seigneur, et il dit simplement ceci, c'est un procurateur romain a fait mettre à mort un certain nombre de personnes, dont Jacques, le frère de Jésus, le soi-disant Christ. Donc, il n'en parle pas plus dans ce passage-là, mais pour lui, ça va de soi, dans la deuxième moitié du premier siècle, que Jésus a existé, tout comme son frère qui a été mis à mort. Il y a un deuxième passage où Joseph en parle beaucoup plus longuement, et alors là, on a mis en doute la réalité de ce texte de Joseph, parce que, d'après ce qu'il en dit, à ce moment-là, eh bien, on pourrait penser qu'il croit en Jésus. Et on a toutes les raisons de penser que cette référence à Jésus dans le texte qu'on a aujourd'hui a été un petit peu manipulée par des auteurs chrétiens après coup. Ce n'est pas l'original qu'on a. Joseph dit par exemple, Jésus était un homme sage, si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme. Il serait étonnant en effet qu'un juif ait écrit cela. Et on peut penser que ce texte-là a été ensuite un petit peu trituré par des chrétiens. Seulement, voilà ce qui s'est passé ces toutes dernières années, puisque ce livre-là qui date d'il y a quelques années seulement n'en parle même pas. On a retrouvé une nouvelle version du livre de Joseph traduit en arabe. On l'appelle le Joseph arabe, et qui, dans ce même texte, parle de Jésus, mais sans que rien dans ce qui est dit là ne puisse faire penser que ça a été écrit par un chrétien. Et la plupart des savants d'aujourd'hui pensent que c'est une version plus primitive de l'œuvre de Joseph que celle que l'on peut mettre en doute. Et dans cette version, je m'aperçois que j'ai oublié de prendre une coupure de journal. Ce n'est pas un journal chrétien, c'est France Soir. Bon, je sais bien que tout ce que publie France Soir n'est pas parole d'évangile, mais c'est pour dire que ça appartient au domaine public. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit par des chrétiens, simplement. Cet article de France Soir que j'avais découpé fait état, enfin, de la conviction d'un savant juif, selon laquelle c'est là le texte original de Flavius Joseph, donc un écrivain juif de la deuxième moitié du premier siècle, qui mentionne Jésus. Voilà pour les auteurs juifs. Maintenant, en ce qui concerne les textes latins, les textes romains de l'époque, la même chose est un petit peu vraie. La plus grande partie des textes qui ont été écrits à cette époque-là sont perdus. Il serait évidemment merveilleux d'avoir les rapports que le procurateur Ponce Pilate a envoyés à l'empereur romain à cette époque-là. On pourrait savoir de façon certaine. Mais aucun rapport, non seulement de Ponce Pilate, mais d'aucun des gouverneurs romains du 1er siècle n'est venu jusqu'à nous. Il ne faut pas s'en étonner, comme je vous le disais. D'autre part, considérez bien ceci. Il y a deux historiens latins de l'époque qui sont Tacite et Suétone. Ces deux historiens-là écrivaient à Rome. C'était en quelque sorte des historiens officiels qui écrivaient, qui étaient un peu obligés, il faut dire, d'écrire pour plaire à l'empereur du moment. Et ces deux historiens-là, donc, font de l'histoire officielle, l'histoire de l'Empire. Or, pour eux, l'histoire de l'Empire, du point de vue de l'Empire romain, de l'empereur qui est à Rome, quelle importance attachée à la crucifixion d'un obscur petit prophète juif à quelques milliers de kilomètres de là, en Palestine. Des crucifixions, mais les Romains en faisaient des centaines toutes les semaines dans leur empire. La crucifixion d'un homme, on pourrait un peu imaginer, si vous voulez, est-ce que un historien officiel du régime nazi en Allemagne se serait préoccupé de savoir le nom d'un résistant qui a été fusillé en 1943 en Bretagne ou en Belgique. Ce n'est qu'après que les historiens romains se sont mis à dresser l'oreille quand ils ont entendu parler de Jésus, mais au moment où Jésus est mort, du point de vue d'un historien officiel romain, c'était un événement sans aucune importance. une croix de plus ou de moins dans l'histoire de l'Empire romain, ça ne pèse rien de ce point de vue-là. Mais c'est ensuite, alors, des dizaines d'années après, quand l'évangile s'est répandu jusqu'à Rome, que les historiens romains ont pu commencer à dresser l'oreille et à dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là » Et alors, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux, un certain nombre d'auteurs romains, se mettent à parler des chrétiens en se référant à leur fondateur, Jésus-Christ. C'est le cas de Tacite, lorsqu'il raconte l'histoire de Néron, de l'empereur romain Néron, au début du IIe siècle. Il parle de Néron qui a persécuté les chrétiens, et il dit « L'auteur de ce nom de chrétien donc, Christ, sous le règne de Tibère, avait été mis à mort par le procurateur Pilate. » Voilà ce qu'en dit Tacite. Il emploie d'ailleurs le mot Christ comme si c'était un nom propre. Lui n'est pas juif, il ne sait pas ce que veut dire le mot Christ, c'est-à-dire Messie. Ça n'a pas de sens pour un Romain, ça n'avait de sens que pour un Juif. Donc pour lui c'est un nom propre, mais là encore, voyez-vous, c'est une référence passagère, mais une référence qui considère l'existence historique de Jésus comme quelque chose d'acquis, d'indiscutable. De la même façon, lorsque Pline le Jeune, à peu près à la même époque, au début du IIe siècle, parle des chrétiens, il ne lui vient pas à l'idée de mettre en doute l'existence historique de Jésus. Voilà donc ce qu'on peut dire en ce qui concerne les auteurs païens et juifs de l'époque et du début du 1er siècle. Il y a un certain nombre d'autres références que l'on pourrait citer, mais il est évident qu'à partir du 2e siècle, c'est-à-dire à partir du moment où le christianisme commence à se répandre dans tout l'Empire romain, les auteurs païens ne connaissent de Jésus que ce que les chrétiens leur annoncent, c'est-à-dire au fond ce que le Nouveau Testament en dit. Et alors maintenant, nous allons donc passer au Nouveau Testament lui-même. Peut-on faire confiance aux auteurs du Nouveau Testament? Alors, il y a un certain nombre d'arguments qui sont utilisés. Le premier, c'est celui-ci, c'est que le Nouveau Testament a été écrit assez longtemps après Jésus. C'est que ce sont des documents assez tardifs et que nous n'en avons de toute façon que des copies encore plus tardives. Ça n'est pas tout à fait faux. C'est vrai, nous le savons, que Jésus, lui, n'a rien écrit. Jésus n'a laissé aucun livre. C'est certain. Mais nous lisons encore sous la plume d'un certain nombre d'auteurs, par exemple un homme qui a édité récemment un évangile apocryphe qui s'appelle l'évangile selon Thomas et qui maintient que les évangiles officiels, si vous voulez, de la Bible sont des œuvres du IIe siècle. Or je crois que là, sur le plan de l'histoire, de la critique littéraire et de l'archéologie, c'est une affirmation qui ne tient absolument pas debout. Nous avons d'excellentes raisons, très sérieuses, de croire que les livres du Nouveau Testament ont été écrits au 1er siècle et que les manuscrits que nous en avons sont beaucoup plus anciens que l'affirme par exemple cet homme. J'irais même jusqu'à dire ceci, il n'y a pas un seul texte de l'Antiquité qui sur le plan des manuscrits, c'est-à-dire des copies qui en ont été faites, soit aussi sérieusement attesté que le Nouveau Testament. Je vais vous en donner quelques exemples. Il existe plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament en tout ou en partie. C'est étonnant. Quand on considère ce que je vous disais tout à l'heure, les textes étaient écrits à la main, ça prenait très longtemps, le parchemin n'est pas quelque chose de très durable, les chrétiens ont été persécutés, les bibliothèques chrétiennes ont souvent été brûlées et détruites. Il est vraiment étonnant qu'il en reste autant. D'autre part, certains de ces manuscrits là sont assez anciens, mais vraiment de manière surprenante. Les grands manuscrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire ceux qui contiennent la totalité du Nouveau Testament, datent du 4e siècle, c'est-à-dire environ 350 ans ou 370 ans après la mort de Jésus, peut-être 400 ans. Nous, ça peut nous paraître très vieux, énorme, 400 ans. Mais en réalité, ce n'est pas si énorme que cela par rapport à ce qui existe ailleurs. Un exemple. Jusqu'aux découvertes de la mer Morte à Qumran à partir de 1947, le plus ancien manuscrit de l'Ancien Testament qu'on avait datait du 9e siècle après Jésus-Christ, alors que l'Ancien Testament a sans doute étaient écrits, enfin les derniers livres, vers le 4e siècle avant Jésus. Ça fait donc 13 siècles de distance. Or, on a trouvé à Qumran des copies du Nouveau Testament qui datent de l'époque du Christ ou d'avant. Vous vous rendez compte, ça fait 9 siècles qui sautent d'un seul coup. Eh bien, il y a très peu de différence entre les deux. D'autre part, en ce qui concerne les auteurs profanes, les auteurs latins et grecs, par exemple, les 9 dixièmes d'entre eux, nous n'avons non seulement pas le manuscrit original, je crois que nous n'avons le manuscrit original d'aucun texte de l'Antiquité. Mais prenez quelques exemples. La guerre des Gaules de César, le plus ancien manuscrit connu date du 10e siècle, c'est-à-dire 10 siècles et demi après que César ait écrit. Le plus ancien manuscrit d'Hérodote, l'historien grec, date également du 10e siècle. Hérodote écrivait 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il est postérieur de 14 siècles de l'original. En ce qui concerne Virgile, il n'y a que 5 siècles de différence. L'auteur dramatique grec Sophocle, il y en a 16. Or, personne ne met en doute le fait que Sophocle ait écrit quelque chose, ou Hérodote, ou César. Or, le Nouveau Testament a des manuscrits beaucoup plus proches de l'original, puisque c'est 4 siècles quant aux grands manuscrits qui ont tout le Nouveau Testament, mais il y a des fragments qui sont bien plus anciens que ça. On a retrouvé en Égypte un bout de papyrus qui donne une partie du chapitre 18 de l'évangile de Jean. Il se trouve à la bibliothèque John Rylands à Manchester, en Angleterre. Et la critique textuelle et scientifique d'aujourd'hui permet de le dater autour de l'année 130. Or, l'évangile de Jean a probablement été écrit dans les années 90 à 100. Et je pense pouvoir dire que c'est probablement le manuscrit de l'Antiquité qui est le plus proche de la rédaction du livre qu'il contient, de tout ce qui existe au monde. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres extraits, et puis il y a surtout ceci, c'est que on connaît quand même des textes d'un grand nombre d'auteurs chrétiens du 2e, 3e siècle, qui eux aussi citent abondamment le Nouveau Testament, et qui montrent qu'ils le connaissaient, par exemple, au milieu du 2e siècle. Il y a plusieurs auteurs chrétiens qui montrent qu'ils connaissaient le Nouveau Testament qu'on a. Nous avons donc un certain nombre de preuves qui nous montrent, sans aucun doute possible, que le Nouveau Testament a été écrit au cours du 1er siècle et que nous pouvons, sur le plan en tout cas du texte, nous fier à ce qui est écrit, puisque c'est mieux attesté que tout autre auteur de l'Antiquité, pratiquement. C'est déjà une chose assez remarquable. D'autre part, il faut tenir compte des témoignages des chrétiens d'autrefois qui en parlent. Irénée, par exemple, saint Irénée, qui a été martyrisé à Lyon, et en écrivant vers 180, parle d'un de ses maîtres dans la foi chrétienne qui s'appelait Polycarpe, qui a lui-même d'ailleurs écrit une épître et qui a été martyrisé en 156. Et Irénée nous dit que Polycarpe, lorsqu'il était jeune, avait été un disciple de l'apôtre Jean et qu'il disait: je l'ai souvent entendu raconter ce que Jean, Irénée dit, j'ai souvent entendu Polycarpe raconter ce que Jean et d'autres témoins oculaires lui avaient rapporté au sujet de Jésus. Il y a donc une sorte de chaîne ininterrompue entre Jésus et nous par le moyen des manuscrits, des textes du Nouveau Testament. On peut penser que les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est l'avis de la grosse majorité des savants d'aujourd'hui, ont été écrits entre les années 60 et 80 après Jésus-Christ. L'évangile de Jean, comme je vous le disais, sans doute autour de 90. Les épîtres de Paul sont plus anciennes. On ne peut pas toutes les dater avec certitude, mais c'est grosso modo entre les années 50 et 65. Ce qui est important, quand je cite ces dates, c'est de faire remarquer que ces textes-là ont été écrits à un moment où de nombreuses personnes étaient encore en vie, qui vivaient du temps du Christ, voyez-vous. Autrement dit, ils ont été écrits à une époque où des témoins oculaires des événements qui entourent Jésus-Christ étaient encore en vie. Or, il me paraît très important de souligner ici que les auteurs du Nouveau Testament se présentent eux-mêmes soit comme des témoins des événements, soit comme des gens qui rapportent ce que des témoins ont dit. Mais s'il est vrai que d'autres témoins des événements étaient en vie au moment où ils ont écrit cela, ils courent un drôle de risque à inventer des choses qui n'étaient pas en prétendant en être les témoins. Parce que ce qu'ils disent peut être confronté avec ce que d'autres témoins ont vu ou n'ont pas vu. Et c'est précisément là, je crois, le caractère fondamental du Nouveau Testament. Il se présente comme un témoignage rendu à des événements qui se sont produits. Un témoignage qui est mis par écrit, qui est donc déclaré publiquement et qui peut donc à tout bout de champ, à tous les tournants de la route, être confronté par d'autres témoins. Et si les auteurs du Nouveau Testament présentent leur témoignage avec autant d'assurance, c'est qu'ils savent très bien que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, mais quelque chose qu'ils ont vu et entendu. Et j'aimerais ici vous citer un certain nombre de textes, parce que je crois qu'il est très important de comprendre le pourquoi du Nouveau Testament, c'est-à-dire de savoir pourquoi des hommes ont écrit ce qu'ils ont écrit. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui a été écrit donc vraisemblablement vers l'année, entre les années 70 et 80, Luc, qui est à peu près certainement l'auteur de ce livre, met un certain nombre de prédications dans la bouche des apôtres. C'est pas du mot à mot vraisemblablement. Luc en fait un résumé. Je vais vous en citer une, elle fait une demi-colonne dans ma Bible. Il est vraisemblable que Pierre, ce jour-là, parce que c'est des paroles de l'apôtre Pierre, a parlé un peu plus longtemps que ça. Luc résume, forcément. Mais beaucoup de savants, enfin la majorité des savants aujourd'hui, pensent que Luc s'est servi pour composer son livre d'un recueil de prédications des apôtres qui avait sans doute été rédigé d'après des notes d'auditeurs. Donc lui résume, il ne cite pas forcément du mot à mot, mais il résume ce qui a été rapporté par donc des témoins directs, des auditeurs. Et voilà ce qu'il met dans la bouche de Pierre, donc ce que Pierre déclare, et je crois que c'est peut-être le meilleur résumé de la prédication de la première Église. Pierre dit « Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous ». Je ne vous ai pas donné la référence, c'est au chapitre 10 et au verset 36 du livre des Actes. Et il continue, Actes 10, 37. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. » Entre parenthèses, un écrivain comme Joseph, dont je vous parlais tout à l'heure, parle aussi de Jean-Baptiste. C'est pour lui aussi un événement historique. Et tout se tient. Donc, vous savez ce qui est arrivé. Voilà ce que dit Pierre. Il s'adresse à des gens qui ont été témoins des choses et qui peuvent le contester si ça n'est pas vrai, ce qu'il dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Remarquez bien comment la prédication de Pierre, justement, s'appuie sur un « vous savez ce qui est arrivé, nous en sommes témoins ». Et ceci à une date où d'autres témoins étaient en vie. De la même façon, un texte qui est très ancien aussi, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui doit dater, si mes souvenirs sont exacts, de l'année 52, après Jésus-Christ, Paul résume au chapitre 15 l'évangile qu'il annonce. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mort vivant, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après ça à moi, dit-il. Mais là encore, il y a l'affirmation que c'est un événement qui a été vu par des hommes dont certains sont encore en vie au moment où le texte est écrit. L'apôtre Jean, dans sa première épître, parle dans le même sens. Tout au début de la première lettre de Jean, c'est son introduction, il commence de la façon suivante. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voilà comment un apôtre présente son message. Ce n'est pas des idées à lui, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qu'il dit avoir vu et entendu et dont il se présente comme un témoin. Un témoin qui rend compte de ce qu'il a vu et entendu. Au début de son évangile, Luc, qui lui n'a pas rencontré Jésus, Luc est un converti de l'apôtre Paul, plusieurs années plus tard, mais Luc, lorsqu'il écrit l'évangile, le présente de la façon suivante. Au début de l'évangile de Luc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez-vous, encore une fois, Luc, qui lui n'était pas un témoin, fait appel aux témoins qui ont connu Jésus-Christ et qui l'ont interrogé. Là encore, voyez-vous, il y a continuité. Il n'y a pas de rupture entre Jésus, ses témoins, ceux qui ont écrit et nous-mêmes qui pouvons lire par conséquent. Une chose est certaine, c'est que les évangélistes se présentent comme des témoins et ils déclarent que leur intention, la raison pour laquelle ils écrivent, c'est pour rendre témoignage d'événements qui se sont réellement produits et dont eux ou d'autres ont été témoins oculaires. Bon, on peut toujours mettre en doute ce que quelqu'un dit, mais pour le mettre en doute, il faut avoir de sérieuses raisons de le faire. Or, je prétends qu'il n'y a pas de sérieuses raisons de mettre en doute non seulement l'intention, mais aussi l'honnêteté des évangélistes lorsqu'ils écrivent ainsi. Comme je vous l'ai dit, non seulement il n'y a pas de contradiction avec ce que l'on peut connaître de l'histoire profane, mais il y a au contraire un certain nombre de recoupements. On peut signaler par exemple que les évangiles, d'abord, n'ont pas été écrits par le même homme. Ils ont été écrits à des endroits différents, par des hommes qui se connaissaient peut-être, mais pas forcément. Et que, non seulement les évangiles, mais les autres textes du Nouveau Testament rendent compte d'un même événement, alors qu'ils ont été composés à des dates et dans des endroits différents. La meilleure, la plus simple, la plus naturelle de toutes les explications possibles, c'est qu'ils se basent sur une même chose, sur un même événement. On peut difficilement penser que ce soit des gens qui se sont concertés pour inventer la même chose. D'abord, il n'y aurait sûrement pas quatre évangiles, parce que le fait qu'il y ait quatre évangiles a souvent fait problème, vous savez, dans l'Église. Et on a essayé de les réduire en un seul, très vite. Dès le IIe siècle, il y a un nommé Tatien qui a essayé de faire un seul évangile des quatre. Mais je crois que ça vient tout simplement du fait qu'il y avait à Rome, par exemple, pour l'évangile de Marc, qui a sans doute été écrit à Rome, à Antioche peut-être pour celui de Matthieu, à Césarée pour celui de Luc, Celui de Jean, on ne sait pas, à Éphèse probablement, pour l'évangile de Jean, on n'a pas une certitude absolue. Il y avait là des apôtres qui ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vu et entendu. D'autre part, il est aussi frappant de constater que les évangélistes font des références constantes aux événements, aux coutumes, aux personnages du temps de Jésus. Or, tout ce qu'on peut savoir, d'après l'archéologie et l'histoire à côté, nous montre que ces références-là collent parfaitement avec la réalité. Luc, par exemple, qui a écrit un évangile et les actes, qui est, disons, le plus historien de tous les auteurs du Nouveau Testament, celui qui s'intéresse le plus à l'histoire, Luc nomme 3 empereurs romains, plusieurs rois juifs, un certain nombre de gouverneurs romains, des chefs du peuple juif également, et tout ce qu'il dit est en accord avec les faits que l'on connaît par ailleurs. Il y a quelques points d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de trous dans notre connaissance de cette époque-là. Je vous répète que la plupart des textes de l'époque sont perdus. Mais, par exemple, dans les titres que Luc donne des différentes personnalités romaines, des personnages de l'Empire romain, Luc n'emploie pas toujours le même terme pour décrire le gouverneur d'une ville, par exemple. Eh bien, on s'aperçoit, les archéologues se sont aperçus que les termes employés par Luc sont les termes justes, qui révèlent donc une connaissance historique exacte du temps, et ainsi de suite. La seule conclusion qui me paraît honnête de tirer, c'est que nous nous trouvons véritablement devant des témoignages et non pas devant une fabrication. On pourrait aussi citer que le fait que l'on trouve dans les évangiles un certain nombre d'échos, de paroles de Jésus en particulier, qui vraiment semblent remonter à des souvenirs, qu'on pourrait dire, personnels. Je donne un exemple. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Les évangélistes ont écrit en grec, étaient écrits en grec tout simplement parce que c'était la langue véhiculaire de l'Empire romain. C'est un grec un peu simplifié, c'est un grec populaire, c'est pas un grec très savant, et c'est la langue qui était comprise partout, la langue commerciale, la langue des échanges de tous les jours. Or, on trouve dans les évangiles des textes, des expressions ou des mots en araméen. En particulier, il y en a 2 ou 3 qui sont restés, qui ont marqué, semble-t-il, et celui-ci, entre autres, Abba, qui veut dire père, ou plus exactement, on pourrait presque traduire papa. C'est un terme d'intimité du fils à son père. Comment imaginer que des auteurs qui écrivent en grec aient utilisé ce terme araméen, sinon parce que l'emploi de ce mot père dans la bouche de Jésus avait tellement frappé ses disciples que c'est le mot qui leur venait naturellement à l'esprit lorsqu'ils y repensent. Parce qu'il n'était pas naturel pour un juif de dire Abba à Dieu comme ça. Les juifs considéraient Dieu comme le père du peuple juif, mais pas comme celui à qui on peut personnellement s'adresser comme à son père. De la même façon, dans le Nouveau Testament, il y a 2 ou 3 expressions araméennes qui sont restées comme ça, et personne n'a pu fournir d'autres explications que celle-ci, que c'est vraiment un souvenir personnel qui est quelque chose qui a tellement frappé les apôtres qu'ils le rapportent tel que ça leur est resté. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un pays étranger ou si vous avez déjà vécu au milieu de gens qui ne parlent pas votre langue. Eh bien, même si vous n'apprenez pas la langue du pays, il y a 2 ou 3 expressions qui un jour vous frappent et que vous répétez à tout bout de champ. Mais je crois que c'est un petit peu la même chose, voyez-vous, pour les auteurs du Nouveau Testament qui se souviennent de quelques paroles de Jésus qui les ont frappées dans des cas particuliers et qui nous sont donc rapportées en araméen et pas en grec. Pourquoi, sinon pour cela? Parce qu'il y a ce souvenir personnel. D'autre part, il y a une chose qu'on n'a jamais pu expliquer non plus, c'est pourquoi les apôtres qui ont soit écrit eux-mêmes l'évangile, soit guidé l'auteur des évangiles, comme on pense par exemple que c'est l'apôtre Pierre qui a guidé Marc dans la rédaction de l'évangile. Pourquoi est-ce que Pierre cite certaines paroles de Jésus qui sont loin de le mettre en valeur? Il y a dans l'évangile des paroles de Jésus, il y en a, on peut très bien imaginer que l'Église plus tard les aurait inventées. Mais il y en a où c'est absolument impossible. Parce que ça va absolument contre la façon dont l'Église a évolué ensuite. Il y a des paroles, si vous voulez, qui sont contraires à ce que les chrétiens auraient été tentés de dire et qu'ils n'ont pu écrire que parce que c'était comme ça, tout simplement. Ils l'ont reçu, mais ils ne pouvaient pas l'inventer. En particulier, on peut penser à un certain nombre de paroles très dures de Jésus à Pierre. Par exemple, lorsque Pierre a confessé le premier que Jésus est le Christ, l'évangile de Marc et d'autres aussi nous disent que Jésus a commencé à parler de sa mort. À quoi Pierre a répondu, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus répond, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. » On voit difficilement Pierre inventant une parole comme celle-là. Si bien que je crois qu'on ne peut tirer qu'une conclusion de tout cela, c'est que Jésus de Nazareth, ça aussi c'était un obstacle à la foi que Jésus soit venu de Nazareth, c'était un obstacle pour les Juifs. Or, en tout cas, trois des évangiles ont été écrits par des Juifs. Parce que Nazareth, c'était une bourgade de mauvaise réputation, c'était un endroit d'agité. La Galilée, la région de Nazareth, c'était la région, une région dont la religion était mal vue par les gens de Jérusalem, et aussi un endroit où il y avait beaucoup d'agitation politique. C'était l'endroit où il y avait le plus grand nombre de résistants aux Romains, cette région-là. Or, pour les Juifs, l'origine nazaréenne de Jésus était un obstacle. Le Nouveau Testament la présente en long et en large. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste, ça aussi c'était un obstacle parce que quand les chrétiens prêchaient l'évangile, il y avait des disciples de Jean-Baptiste qui restaient. On sait par ailleurs qu'il y a eu quelquefois conflit entre les deux. Les chrétiens auraient très bien pu taire le fait que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, ce qui semblerait indiquer une sorte de supériorité de Jean, sur Jésus. Ils le racontent pourtant, parce que ça s'est passé comme ça. Ils n'hésitent pas à présenter la vie de Jésus comme un échec qui aboutit à la crucifixion. Or, la croix, c'était quand même un supplice jugé infâme à l'époque. Ma conclusion, c'est donc que nous pouvons ajouter foi au récit des évangélistes et au témoignage des premiers apôtres dans l'ensemble du Nouveau Testament. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés. Il faut être honnête, les évangélistes ne font pas œuvre d'historien au sens propre du terme, d'historien dans le sens moderne du mot. Ils ne cherchent pas à raconter objectivement exactement comment les choses se sont passées dans un ordre chronologique. Si vous comparez deux évangiles, vous verrez que les mêmes histoires ne sont pas dans le même ordre, dans certains cas. Tout simplement parce que les évangélistes ne font ni une biographie ni une histoire de Jésus. Depuis, on a essayé d'écrire des quantités de vie de Jésus. D'un homme, c'est-à-dire sans interruption de la naissance à la mort. On ne peut pas faire ça avec les évangiles. Il y a des trous, mais ces trous s'expliquent justement par le fait qu'aucun des évangélistes prétend être simplement un historien. Ils prétendent tous être des témoins qui ont cru et qui cherchent à présenter Jésus à d'autres pour qu'eux aussi croient. Et l'apôtre Jean nous le dit de la manière la plus claire à la fin de son évangile, au chapitre 20. Et au chapitre 21, je vais vous lire deux textes. D'abord à la fin du chapitre 21, versets 24 et 25. Jean ne se nomme pas d'ailleurs. On pense que c'est Jean, mais ce n'est pas signé. Il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Ça, c'est sans doute quelqu'un d'autre qui a ajouté ça d'ailleurs. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Et au chapitre 20 et au verset 30 et 31, cette fois-ci, c'est Jean lui-même qui écrit. Tandis que les deux derniers versets, c'est peut-être un de ses amis qui a ajouté ça. Mais Jean 20, 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il n'a pas la prétention de tout dire, autrement dit. Mais il ajoute, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors là, nous pouvons mieux comprendre pourquoi les évangélistes ont écrit les évangiles comme ils l'ont fait et pourquoi ils les ont intitulés Évangile et pas Vie de Jésus. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ce sont des hommes, juifs d'origine, qui attendaient la venue d'un Messie qui serait le libérateur d'Israël. Ils ont rencontré un homme, Jésus de Nazareth, c'est ainsi qu'on l'appelait. Ils ont été arrêtés par cet homme. Ils ont été amenés à s'interroger sur son compte. Si vous lisez les évangiles, vous verrez une des choses les plus frappantes, c'est que, à toutes les pages, ou presque, cette question apparaît. Mais enfin, qui c'est cet homme-là? Qui est cet homme? Relisez les évangiles en essayant de vous mettre dans la peau des gens de l'époque qui rencontraient Jésus. Et au fond, les évangélistes n'ont pas d'autre but que ça, nous permettre de rencontrer Jésus, en nous montrant ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, en nous plaçant devant lui. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui vient en quelque sorte nous prendre par la main et qui nous dit « Viens, je veux te faire rencontrer quelqu'un ». Il cherche à nous faire rencontrer Jésus pour que, comme eux, nous ne soyons interrogés par lui, étonnés par lui. Relisez encore les évangiles, vous verrez que Jésus, à tous les tournants, suscite l'étonnement. Mais enfin, qui est cet homme? Et l'évangéliste qui s'est posé cette question-là, à un moment, est arrivé à une conclusion, comme l'apôtre Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est Jésus qui lui a posé la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, alors, a répondu, « Je crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et tous les évangélistes ont cru cela. Jean aussi, lorsqu'il dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si bien qu'il nous pose aussi la question. En racontant l'évangile, il présente Jésus. Voilà un homme, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Oh, il ne raconte pas tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, mais ce qui leur paraît significatif à leurs yeux, ce qui a eu un sens pour eux, si vous voulez, ce qui les a amenés à s'interroger sur Jésus et à donner leur réponse, cette réponse qui est la foi. Tu es le Christ. Ou encore dans une autre confession de l'apôtre Pierre que j'aime beaucoup, Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il est certain que les apôtres ne prétendent pas être des journalistes blasés et indifférents qui racontent ce qu'ils ont vu comme ça. Ce sont des croyants. Mais ce sont des croyants qui sont arrivés à leur conviction après avoir rencontré Jésus, après avoir vu ce qu'il a fait, entendu ce qu'il a dit, après s'être laissés eux-mêmes interroger et remettre en question par lui. Et au fond, les évangélistes nous disent, eh bien, voilà qui est Jésus, regardez-le, écoutez-le. Alors, si vous êtes honnête, vous êtes obligé de vous demander, mais enfin, qui est cet homme? Et si vous vous posez cette question, est-ce que vous n'êtes pas immanquablement amené à vous rendre compte que lui-même vous interroge, qu'il vous interpelle, qu'il vous dit, qui dites-vous que je suis? Et c'est là toute la question que cherche à nous poser le Nouveau Testament et les évangiles en particulier. Les témoins qui ont vu Jésus, qui après l'avoir vu et entendu, sont arrivés à la conclusion qu'il est vraiment, pas simplement un maître qui enseigne comme beaucoup d'autres, mais Dieu à l'œuvre parmi les hommes d'une manière étonnante, tellement étonnante qu'il a été crucifié. Ses disciples à ce moment-là ont été tellement étonnés qu'ils ont pris la fuite. Ils n'y comprenaient plus rien. Mais ils ont le culot, si j'ose dire, d'affirmer ensuite que cet homme qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, qu'ils en sont témoins, et ils ont le courage d'aller le dire à tout le monde. Parce que si les apôtres se présentent comme des témoins de Jésus, ils veulent surtout se présenter comme des témoins de sa résurrection. Ils sont des témoins du ressuscité. Alors là, on pourrait dire à la limite de l'histoire. La résurrection de Jésus, ça n'est pas un événement que nous pouvons prouver historiquement. Nous avons un témoignage Et nous devons chacun pour nous nous poser la question, est-ce que je peux faire confiance à ce témoignage-là ? Mais je voudrais quand même faire une remarque d'ordre historique, c'est la suivante. C'est que ces hommes-là, qui étaient des gens ordinaires, pas tellement courageux, pas spécialement instruits, ces hommes-là, parce qu'ils ont cru à la résurrection de Jésus, sont partis à la conquête du monde et rien n'a pu les arrêter. Il fallait qu'ils aient en eux quand même une certitude extraordinaire pour oser affronter toute la puissance de l'Empire romain au nom d'une simple parole, Christ est ressuscité. Et lorsque l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, par exemple, dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit », il faut se souvenir qu'il écrivait à Rome, c'est-à-dire au siège de la puissance romaine, et qu'il arrivait, lui, petit apôtre chrétien, et les chrétiens à l'époque étaient considérés comme une secte méprisée, avec aucune autre arme pour convaincre que sa parole, l'Évangile. Et il arrive avec la confiance que cet évangile est une puissance de Dieu, et les événements ont prouvé qu'il avait raison. L'évangile a conquis Rome. Comment expliquer cette puissance des apôtres si leur conviction annoncée en la résurrection de Jésus ne repose sur rien ? Ceci dit, voyez-vous, toutes les raisons, toutes les bonnes raisons que l'on peut avoir de croire en l'historicité de Jésus ne nous amène pas encore au cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas de savoir si Jésus a existé. Les évangélistes ne nous demandent pas de croire quelque chose. Vous pouvez être, il y a des quantités de gens autour de nous qui croient que Jésus a existé, qu'il est mort. Peut-être même, peut-on savoir, dira-t-on sans doute, qu'il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça change pour eux ? Les évangélistes voient les choses autrement. Ils ne nous demandent pas de croire quelque chose, mais de croire en quelqu'un. De mettre en la personne de Jésus une confiance telle que nous soyons prêts à reconnaître en lui Dieu avec nous. La parole que Dieu nous adresse aujourd'hui comme autrefois pour nous faire vivre. Et nous sommes donc invités non seulement à avoir une conviction intellectuelle, mais à nous situer par rapport à la personne de Jésus. C'est ça le but des évangélistes, voyez-vous. Ils ne font pas simplement œuvre d'historien, ni œuvre de témoin d'un accident ou d'un événement. Ils font œuvre d'évangélistes qui annoncent une bonne nouvelle et qui, comme dit l'apôtre Jean, ont écrit ces choses « afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et c'est seulement si nous lisons l'Évangile pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour ce que les apôtres ont réellement voulu dire et communiquer, que nous le lisons droitement et que nous pouvons vraiment entendre ce message qui, curieusement quand même, quand on y réfléchit, a franchi une vingtaine de siècles et continue à être pour des hommes de notre temps un pain qui fait vivre, une eau qui désaltère, une force qui renouvelle la vie. Oui, dans l'Évangile, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a si longtemps, mais que ses apôtres disent être ressuscité des morts, Jésus continue à nous parler, à nous interpeller, « Qui dites-vous que je suis ?» et à nous inviter à croire en lui pour que nos vies soient renouvelées et délivré de la puissance du mal et de la mort, ce pourquoi il a vécu et ce qu'il a démontré par sa résurrection d'entre les morts.